Direction Ganagobi, un plateau à la croisée du temps. Le plateau de Ganagobi dans les Alpes de Haute-Provence longe la Durance et domine du haut de ses 350 mètres un paysage fantastique du pays de Fort-Calquier à la montagne de Lure. Les anciens disaient que ce plateau constitué d'une chênaie hébergeait toujours les puissances naturelles des premières religions. Michel Benedetto, majoral du Félibrige, nous emporte pour un fantastique voyage dans le temps au micro de Chris Alessandri. Michel Benedetto, nous nous retrouvons dans un cadre fantastique. Nous sommes entre Péruy et Lure. Nous sommes sur un lieu que vous connaissez bien et c'est vous qui allez être notre guide.
Ah ben, c'est déjà situé à Ganagobi. On est sur le plateau de Ganagobi, un haut lieu de la Haute-Provence, de la Provence, avec cette vue magnifique sur la Durance.
Vous êtes quelqu'un qui non seulement connaissait bien le terrain, mais qui avait une forte connaissance de toute l'histoire qui imprègne ces lieux.
Écoutez, c'est parce que quand j'étais tout petit, mes parents venaient toutes les années ici avec une belle fête provençale qui s'appelle la Can dei Félibres Basaoupin, donc le rassemblement des Félibres des Basses-Alpes, parce que mes parents faisaient partie du Rhodos Comanosque, donc à Manosque, et que je suis tombé, comme on dit, chez Astérix, dans la marmite quand j'étais petit. Donc ce lieu, je le vis depuis 60 ans, à peu près.
Vous êtes majoral du Félibrige.
Ah oui, vous voulez partir sur ce sujet? Bon, ben oui.
Un tout petit peu pour les présentations, parce que là, c'est dire que nous sommes avec quelqu'un qui est complètement enraciné.
Écoutez, ben oui, j'aime bien le terme enraciné, parce que bon, j'ai cette chance inouïe d'avoir pu recevoir, avec mon nom d'origine italienne, donc cette belle tradition qui est notre culture provençale, et surtout son idiome, sa langue, qui porte toute la pensée donc de ce pays. Donc oui, j'ai cette chance d'être enraciné et donc d'avoir continué le travail de mes parents, notamment ici, puisque donc actuellement avec Rhodos Comanosque, donc je suis le président. Le Rhodos Comanosque vient depuis les années 60, mais bon, ça a commencé juste un peu avant, après la guerre, donc sur ce plateau, entretenir les traditions et rassembler tous ceux qui sont attachés à la culture de notre Provence, à sa langue et puis aussi à une certaine spiritualité, puisque c'est pas pour rien qu'on vient sur le plateau.
Est-ce que le terme havre de paix colle tout à fait à l'ambiance qu'on retrouve ici pour définir ce lieu?
Alors moi, le havre, je le vois plutôt dans le nord-est de la France. Mais oui, effectivement, je suis sérieux. C'est un lieu de paix. Aujourd'hui, c'est un lieu de prière aussi. C'est donc un lieu de silence. On est 300 mètres au-dessus de la Durance. On a une vue. Et voilà, là, je vous regarde, mais au fond, je vois donc la Sainte Victoire. Je vois donc toute la Haute-Provence aussi de l'autre côté, les Alpes. Donc, on a un peu le sentiment d'être un peu comme un oiseau sur un perchoir ou dans un nid d'aigle. Tout simplement. Là, nous sommes sur le parking à l'arrivée avec cette vue magnifique sur la Durance et sur le plateau de Valensole et puis derrière le Verdon. Présenter, parler du plateau de Ganagobi, c'est pas possible de s'affranchir de ce qu'on appellerait la géologie. Alors moi, j'ai la chance d'avoir été formé donc dans le bâtiment. Je fais mes études là-dedans. Bon, fils d'un tailleur de pierre qui m'a donné beaucoup d'autres enseignements aussi. Mais donc la géologie de ce lieu a fait que depuis la plus haute histoire, la préhistoire, et donc il a attirer les hommes parce qu'il protégeait les hommes. Sur ce lieu, on est sur donc une dalle calcaire, donc de molasse, qui fait 1,5 km de long par à peu près 1 km de large, au-dessus d'une couche géologique d'argile, qui fait que donc ce calcaire qui est poreux par sa structure, puisqu'il est faillé, eh bien, a toute l'eau qui s'arrête donc 30-40 mètres au-dessous de la croûte calcaire sur les couches d'argile. Ce qui veut dire que sur ce plateau, à 300 mètres au-dessus de la Durance, on descend d'une petite cinquantaine de mètres donc du plateau et il y a des sources. Donc déjà, l'eau qui dit eau dit vie, en tout cas pour les hommes. Donc à la préhistoire, ce lieu donc, qui est bordé sur 360 degrés de falaise, c'est-à-dire c'est une forteresse naturelle, eh bien l'homme depuis la préhistoire vient s'y reposer après la chasse et puis à d'autres époques, eh bien, y être protégé de l'envahisseur qui en plus le voit venir de loin. Quoi. Voilà. Ça c'est déjà cette notion de dire c'est un lieu qui a toujours été, je dirais, un lieu béni quoi, pour les hommes. Quoi.
Vous êtes notre guide, Michel. Nous allons vous emboîter le pas. Quelle direction?
Alors, ben, moi, je vous propose de monter donc en direction, pas directement du centre que tout le monde va voir, puisque quand on vient à Ganagobi, on va incontournablement vers le monastère, qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, parce que justement, on ressent cette universalité que la nature a sur des personnes qui ont envie de se poser, et puis peut-être de s'élever aussi sur un plan spirituel, mais simplement se reposer, trouver le silence et les énergies de la nature. Je vous propose de remonter plutôt vers la partie ouest du plateau, parce que c'est là où il y a donc des vestiges, entre autres ceux des villages gaulois. Je proposais de monter voir ce qui reste du vieux village donc de Ganagobi, le village médiéval qui s'appelait Villevieille. Bon, c'est comme ça qu'il a été nommé après qu'il soit abandonné. Ce village-là, donc, il comporte donc un rempart magnifique de 120 mètres de long, qui a été dégagé dans les années 90 quand les moines sont revenus occuper le plateau, qui laisse donc montrer un rempart nu avec un appareillage très typique de l'époque, c'est-à-dire donc 12e siècle à peu près. Et une porte qui a été reconstituée, moyennement, je dirais, parce que moi qui suis fils de tailleur de pierre, je pense qu'on n'a pas bien remonté ça, mais bon, ça c'est bon. Mais ceci a le mérite d'avoir été remonté. Et derrière, une cinquantaine donc, de vestiges d'habitations qui ont été détruites à une époque sombre de la Provence, qui est celle ce qu'on appelle donc, des guerres de grande compagnie. C'est-à-dire, c'est à la fin de la guerre de Cent Ans, c'est le 15e siècle, où on a gagné contre les Anglais. Tout le sud-ouest de la France, l'ouest de la France est dévasté, ruiné, 100 ans de guerre contre les Anglais. Et pour lesquels, pour que les seigneurs résistent, on a fabriqué, on a entretenu, on a créé des compagnies de mercenaires. Et ces mercenaires, ils vont se constituer en armée de mercenaires pendant un siècle, c'est-à-dire de père en fils en petit-fils, et même plus. Et qui vont vivre que de ça, c'est-à-dire de faire la guerre, et puis d'un coup, il n'y a plus de guerre. Donc on se retrouve avec des armées constituées, qui étaient payées mercenaires, et qui sont complètement à l'affût de travailler, donc d'un endroit où il y a la guerre, mais il n'y en a plus. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir dans les pays qui n'ont pas été soumis à la guerre, qui sont riches. Et un des pays les plus riches de l'époque, c'est le midi de la France. Donc ils vont venir sur le Languedoc-Roussillon et surtout sur la Provence. Et ils vont mettre la Provence à sac pendant des décennies, au moins 30 ans. Et à sac, disons, là on a un exemple, ce village va être détruit à cette époque-là. Donc là, il y a des mémoires qui doivent être très difficiles, donc, parce que ça n'a pas dû se faire dans la douceur. Certainement des lieux de massacre. Et les gens ne réhabiteront plus là. Donc ici, certainement, à cette époque-là, le monastère doit être donc, abandonné, hein, donc le temps d'eux. Bon, il est réoccupé de suite après, mais les gens ne réhabiteront plus là-bas. Donc là, c'est un lieu qui, à la fois, sur un plan archéologique, historique, est magnifique. On voit ce rempart, on s'y croit. Il n'y a pas une antenne, on voit que des pierres. Et donc, cette entrée, il y a ce côté un peu sauvage. Devant, il est flanqué donc, d'un ouvrage qui est une ancienne église, donc, qui a été flanquée, c'est-à-dire qu'elle a été construite après. Il devait y avoir certainement une église castrale à l'intérieur, dont on n'a pas les traces aujourd'hui. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que sur le plan énergétique, on voit où sont ce qu'on appelle les hauts lieux. Donc, à ces endroits où, à la fin de l'époque, je dirais, florissante donc, du village de Villevieille. Et un chemin pour y aller, il y a une chapelle que le randonneur pourra trouver, qui est donc ce qu'on appelle un ermitage, dédicacé à Saint-Martin, pour d'autres à Saint-Étienne. Il y a quelques contradictions. C'est une petite chapelle, toute simple, avec une nef unique, mais avec un petit habitat devant, qui était celui de l'ermite, qui fonctionnait, comme souvent c'était le cas, et avec un des ermites qui avait des vertus quand même, qu'on oublie aussi, c'était celle donc de soigner les gens. Il était à la fois éloigné, donc il vivait en ermitage, mais il avait des vertus aussi, donc il vivait peut-être la repentance, il vivait donc une vie encore plus solitaire, puisqu'il n'était pas dans la communauté, mais donc sa position aussi faisait que souvent ils étaient réputés pour être des guérisseurs. Il ne vivait pas forcément tout seul. C'est un haut lieu aussi, il y a une très forte énergie sur ce lieu-là, donc cette petite chapelle, dont il reste les bases sur à peu près 1 mètre, 1,50 mètre de hauteur. Donc pareil, de la même époque, donc d'architecture romane.
Michel, nous sommes sur un lieu où visiblement nous avons des supports naturels ici au milieu de ces magnifiques chênes. Nous avons ces rochers qui semblent avoir accueilli.
Alors oui, c'est le terme, accueilli et aussi protégé, puisqu'on est sur le plateau et malgré tout on trouve un petit plateau à l'intérieur, donc qui est au-dessus de 2 mètres, mais qui a été exploité donc manifestement de façon attestée à l'époque gauloise, puisque là à l'intérieur, au-dessus de ce petit promontoire, donc il y a les vestiges d'un ancien village gaulois qui a été fouillé dans les années 50, et évidemment, comme l'homme a toujours été dans cette notion d'économie, donc de l'effort, à l'époque on n'avait pas des grues, on n'avait pas des engins énormes, et bien là ils se sont servis de cet éperon donc pour au-dessus, à l'aplomb, monter des petits remparts, qui peut-être à l'époque gauloise étaient aussi faits de palissades, hein, il faut savoir que le bois était beaucoup utilisé. Donc, comme on est sur le rocher, je pense, et qu'il y a de la roche partout, je pense que c'était plutôt donc un rempart en pierre bâti, et derrière lequel donc on bénéficie déjà de 2 mètres de hauteur du rocher, on remet encore 3 mètres de hauteur, ça faisait un rempart de 5 mètres de hauteur. Le Romain qui voulait venir là, il fallait déjà sauter par-dessus pour pouvoir rentrer dans ce village. Et donc, il reste toutes ces mémoires donc, de cette vie qui est quand même, il faut le penser aussi, au 2e siècle avant Jésus-Christ, là, dans les années 100 avant Jésus-Christ. La Provence va être, on va dire, colonisée par les légions romaines. Aix-en-Provence tombe dans les années 124 avant Jésus-Christ. Donc ça s'est pas fait dans la douceur partout, quoi. Donc c'est des lieux qui sont très chargés de mémoire et des fois difficiles. Et pour ceux qui sont amateurs, moi j'étais sensibilisé à la radiesthésie par mon père qui était sorcier à 16 heures, sur ces lieux ici, les énergies, donc on va dire de l'époque, qu'on pourrait appeler druidiques, sont encore bien présentes. Et dans ces lieux, on peut, d'ailleurs, on voit beaucoup de messages sur le sol, ceux qui viennent promener à Ganagobi savent que de temps en temps, on trouve des spirales, on trouve des étoiles qui sont tracées, on voit des chaînes qui sont marquées avec des anneaux de pierre, avec des croix. Tout ça, ça peut faire sourire certains quand on y accède avec une conscience donc d'une énergie, d'une mémoire, donc en tout cas de quelque chose qui est sur un plan vibratoire bien ancré dans cette pierre ici sur le plateau. Bien, on peut accéder donc à des dimensions et peut-être même donc à des informations qui pourraient être d'ordre historique. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché parce que savoir que c'est un village donc gaulois, ben oui, il y a des vestiges. On a vu ce qu'on y a trouvé. On a fait des cartes. Les archéologues ont bien bossé. Quand on y vient avec les baguettes, puisque je travaille avec mes petites baguettes de temps en temps.
Les baguettes coudées, hein.
Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui le radmaster, donc la baguette coudée, c'est l'outil du radiesthésiste aujourd'hui. Bon, je m'intéresse à ce qu'on appelle donc à la géographie sacrée. Et, Ganagobi est un haut lieu de géographie sacrée de la Provence.
Alors là, Michel, nous avons fait halte sur visiblement des restes. Nous sommes, d'après vous, sur une carrière.
Oh, c'est pas de mon avis, puisque quelqu'un qui viendra ici verra de suite que tous ces cercles qui sont concentriques les uns sur les autres d'à peu près 1 mètre 50 de diamètre sont donc des vestiges donc d'extraction de meules de pierre. Et alors on n'est plus du tout sur l'époque gauloise tout à l'heure, donc c'est beaucoup plus récent. On estime que c'est plutôt du 17e siècle, peut-être du 18e. Mais donc une technique ancienne d'exploitation des meules de pas très bonne qualité, puisque dans la molasse, donc elles perdent beaucoup quand elles sont utilisées. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce chantier a été utilisé avec une méthode très ancienne, puisque on le voit donc sur cette meule qui est là-bas, donc qui est restée en place suite à une erreur, donc une mauvaise extraction, donc elle n'a pas pu être retirée, et donc qui est une technique qu'on retrouve jusque dans l'Égypte ancienne.
Est-ce qu'on peut savoir à peu près de quelle façon on travaillait là? Parce qu'on voit des formes de bassins. Là, nous sommes en face d'une pierre qui parle. Vraiment, là, il y a tout un travail qui a été fait autour de cette pierre, de cette meule.
Et oui, c'est pour que vous l'emportiez à la radio, donc elle est terminée. Et donc effectivement, elle est terminée, ou presque, puisque quand il y a eu donc la technique, donc ce qu'on appelle le déroquetage, c'est-à-dire la faire céder du sol encaissant, eh bien le système donc a fait qu'elle a cassé. Alors ce qui a cassé, c'est pas la meule, puisqu'elle est intacte devant nous, c'est la partie encaissante dans laquelle donc alors la technique, ben, c'était donc manifestement de celle qui consiste à les coincer sur un côté avec des coins de bois. Et à remplir la feuillure, ce qu'on appelle, c'est-à-dire cet anneau, donc d'eau, qui faisait gonfler le bois, mais aussi qu'on attendait qu'il gèle aussi. Parce que le gel fait gonfler l'eau, et le bois surtout, donc qui a gelé avec de l'eau chargée, donc crée une poussée latérale, horizontale, qui faisait céder donc la meule sur un plan, plus ou moins horizontal, puisque dans ces monts-là, il n'y a pas de strates. S'il y avait des couches, on pourrait dire on fait casser la meule au niveau de la strate. Là, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on peut trouver des fois 3-4 meules une sur l'autre qui ont été extraites à chaque niveau. Alors, ça casse comme ça casse en fonction de la poussée. Sauf que là, le sol encaissant, eh bien, c'est lui qui a cédé. Et la meule n'a pas bougé.
Il y a un travail énorme parce que ça a un poids conséquent. Là, combien à peu près? Est-ce que vous avez une idée?
Ben, on va dire que le technicien bâtiment qui sait que la pierre fait à peu près 2 tonnes au mètre cube, bon là on doit avoir à peu près, il y a à peu près 500 litres, donc elle doit faire 1 tonne à peu près.
Michel, nous sommes devant l'église du monastère actuellement et c'est vrai que c'est fascinant ce qu'on voit. On voit ce tympan qui est magnifique, et un tympan c'est très symbolique aussi, et là je crois que tous les symboles y sont.
Alors ben, effectivement celui-ci il est à la fois remarquable parce que dans un état de conservation qui est surprenant, mais qui a aussi une petite histoire que j'aime bien, et puis donc un symbolisme donc par rapport à ce qu'on appelle donc c'est la représentation du Christ Pantocrator, c'est-à-dire celui qui donc a le pouvoir sur tout, donc qui est reconnu et qui règne sur tout l'univers avec ses 4 compagnons, on va dire, je les appelle comme ça, c'est-à-dire les 4 évangélistes que l'on voit, donc alors qui sont symbolisés, parce qu'il y en a un, c'est un taureau, c'est Saint Luc, il y en a un, c'est un lion, c'est Saint Marc en bas, donc après sur la droite on voit donc cet aigle qui représente donc Saint Jean, et donc sur la gauche on voit, on va dire, un ange qui est Saint Matthieu. Puis après, il y a d'autres anges qui accompagnent. Bon, on aperçoit donc un symbole du soleil et surtout, on aperçoit ce Christ qui est représenté en gloire, donc au milieu de cette forme de coupe là, qui est en réalité, on appelle ça une mandorle. C'est-à-dire, c'est une amande, c'est le symbole de l'amande mystique, qui à la fois donc est intéressante parce que telle qu'elle est tracée, elle est faite au nombre d'or. Donc on voit tout le secret des bâtisseurs, toute cette puissance et cette connaissance donc de la géométrie et dans ses vertus opératives. Parce que ce sont des formes qui sont à la fois qui touchent l'œil par leur beauté et leur proportion, et puis qui symboliquement vont chercher très très loin. Bon, on pourrait faire donc l'étymologie de l'amande donc en hébreu qui veut dire la lumière. Voilà, pour aller très loin. Et après ces voussures, ce qu'on appelle, qui sont voilà avec ces lobes là, donc qui sont très spécifiques de ce qu'on appelle du roman provençal et qui a été conservé. Alors je la glisse rapidement, je sais pas si j'ai le temps, mais c'est parce que à la Révolution, mais ce lieu devait subir donc les marques donc du changement de conception d'État, et elle était vouée à la destruction. Et au moment de la destruction, les gens de la région, conscients, qui n'étaient pas, je dirais, contestés par les révolutionnaires, donc, vont accepter une idée, c'est-à-dire quand on dit bah, il faut détruire cette église, on dit bah, écoutez, déjà la détruire, c'est compliqué, bah, il faut détruire les symboles, et alors elle est tellement célèbre, cette porte, qu'il faut détruire la porte. Et les gens du coin, ils vont dire mais vous rigolez, quoi, la porte, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est le cœur, c'est l'autel, c'est ça qui est symbole de tout. Donc, alors oui, mais bon, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de moyens, alors bon, bah, si on doit détruire quelque chose, c'est le cœur, c'est l'autel, quoi. Et donc, je crois que c'est la convention, enfin, qui va valider la destruction de beaucoup d'ouvrages sacrés. Donc, on dit, bon, allez, ok, alors on détruit le cœur. Donc, alors, on a détruit ce cœur qui était très beau, et qu'aujourd'hui, on retrouve, qui a été reconstruit, on suppose, à peu près à l'identique. Et, mais c'est surtout que ça a sauvé donc, la porte, avec une petite astuce intéressante qui a trompé, on va dire, ces révolutionnaires qui voulaient faire tomber cette belle porte.
Le tympan, c'est très imagé, hein, quand même, parce qu'on passe du monde profane au monde sacré, c'est vraiment le passage.
Oui, c'est d'ailleurs c'est aussi ce symbole donc de ces trois voussures là que l'on a donc qui donc donne ces étapes donc de je dirais du chrétien qui va passer d'un espace profane dans un espace sacré, et en plus dans nos églises provençales qui va descendre un escalier, c'est-à-dire qui va descendre un peu plus bas que terre. Donc et en plus un peu bas que terre dans un lieu qui est dédicacé à Notre-Dame. Ici, c'est Notre-Dame de Ganagobi. Et donc aller rencontrer l'esprit, le message donc de la Vierge, c'est aussi pour le regard de ce qui me touche aussi profondément, c'est aussi aller rencontrer Gaïa, c'est aussi aller rencontrer les énergies de la terre, c'est aller rencontrer ce qui fait notre nature ancrée, qui permet donc d'être à la fois dans une réalité donc de la vie pour pouvoir la vivre tout simplement. On vit tellement en dehors donc des réalités. Je veux vraiment la grande conscience que rentrer dans ce type de lieu, rencontrer les énergies de ce lieu, c'est véritablement faire un travail aussi de profonde incarnation, quoi.
Vous parliez de Ganagobi, du nom même de Ganagobi. Est-ce qu'on retrouve les sources de ce nom? Comment l'interpréter, ce nom Ganagobi?
Je ne suis pas un spécialiste en toponymie, en étymologie, mais c'est vrai que quand on, comme moi qui parle le provençal, on n'a pas une étymologie qui est latine. C'est beaucoup plus vieux que ça. Donc, bon, de ce que j'en sais, c'est donc une étymologie qui serait un minimum, on va dire, gauloise ou plus ancienne, on dit pré-indo-européen. Et c'est vrai que le terme Gan, c'est toujours une relation avec le caractère minéral pierre. Donc ça a donné, nous en provençal, les fameux Caire et Cairn, voilà, le Cairas, voilà, ces termes-là, le Cairon, hein, donc le Cairon. Et donc ça, c'est une très vieille étymologie. Alors on peut faire une allusion avec le plateau, puisqu'on est sur une grande dalle, vue de l'extérieur, c'est impressionnant, cette grande losse, je dirais, posée sur les argiles. Et après, sur le deuxième parti, le deuxième radical, bon, il y a une relation avec l'eau. Alors ce que j'évoquais au début, c'était qu'il y a de l'eau, malgré tout, à proximité. Il y a au moins trois sources bien identifiées. On peut penser qu'être sur un plateau de pierre avec de l'eau à ses pieds, ce que je disais, donc un lieu d'havre et d'accueil de l'homme, donc a certainement dû favoriser ou donner naissance à son nom. Continuer sur, un peu sous le tympan, on a quand même donc les 12 apôtres qui sont rassemblés. On voit ces trois belles colonnettes de chaque côté, ces 6 colonnettes, donc avec un symbolisme pas toujours simple à expliquer, notamment quand on voit ces zigzags qui sont sur les colonnes et qui donnent donc un sens de mouvement. Et quand on a donc une notion d'énergie aussi qui est prise en compte par les bâtisseurs, et entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Et pour finir, donc aussi la mémoire. Et là, une particularité qu'on voit souvent sur le roman, c'est la mémoire de l'ouvrage sacré qui existait là avant. Et là, il est facile à reconnaître parce que c'est l'utilisation des vieux marbres. Et là, quand on regarde l'église, donc on aperçoit qu'on a 4 entablements au-dessus des chapiteaux, qui donc il y en a 3 en marbre rose et 1 en marbre blanc. Et ça, ce sont des vestiges de l'ancienne église. Alors des fois, on les trouve sur le portail. Souvent, on les trouve plutôt près donc des colonnes qui sont autour de l'autel. Mais là, étant donné qu'à l'intérieur tout était en ruine, hein, donc puisque je vais vous montrer des photos, donc quand on voit en 1887 ce qu'était le monastère, donc c'est troublant. Hein. Il y avait l'église donc était détruite par le fond, ce que je disais tout à l'heure, et le cloître complètement donc effondré. Tout ce qui était parti, le chapitre, les cuisines, tout ça, donc c'était tout en ruine. D'ailleurs, je conseille pour ceux qui seraient intéressés de se procurer le livre d'Alpes de Lumière hein, sur Gana Gobi, qui est en vente toujours à Salagon, et puis peut-être certainement à la boutique des pèlerins ici, là. Au passage, je leur fais un peu de publicité, qui est un ouvrage remarquable, avec des photos magnifiques. Et donc, à l'intérieur, donc, ce qui est donc visible, qui a été retrouvé sous les décombres, c'est donc en l'occurrence cette magnifique mosaïque dans le 11e siècle, et qui a un symbolisme très riche, qui une iconographie romane, donc pré-romane même. C'est un livre ouvert, avec évidemment toujours un niveau d'interprétation avec celui qui va le regarder. Moi, je suis sensible surtout à cette notion, bon, il y a ces animaux fantastiques, mais on voit des habits des soldats, donc habillés, des chevaliers, hein, c'est pas des soldats, des chevaliers, avec des habits qui sont typiques donc de l'époque, mais avec ce que j'appellerais moi donc ce pavé noir et blanc, quoi, ce damier, qui montre cette dualité qui était mise en exergue à l'époque, et que l'on retrouve aussi à droite sur le Saint-Georges qui terrasse le dragon. Ça, c'est quand même intéressant, parce que m'intéressant un petit peu à l'architecture sacrée, il y a toujours eu donc une référence au temple de Salomon, de l'architecture sacrée, mais qui dit temple de Salomon dit un enseignement aussi, de l'enseignement hébraïque, donc qui est quand même le support de base sur la Bible. Et il y a une architecture qui s'appuie sur ça, et cette architecture-là, c'est celle qui représente donc le principe créateur. C'est la première lettre, c'est la lettre Aleph, qui donne donc une structure divisée en deux, en diagonale, avec un côté, bon, on va dire, lecture de la Bible, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le milema, et qui, au Moyen-Âge, avec cette dualité qui est mise en place, le bien au-dessus et le mal au-dessous. Et quand on regarde l'architecture de Saint-Georges, au-dessus de sa lance qui terrasse le dragon et qui est en diagonale, au-dessus, bien, on voit le chevalier, on voit le symbole du triskel, le symbole donc du sceau de Salomon d'ailleurs, et sa main qui est auréolée. Hein, donc c'est un chevalier qui est particulier, c'est Saint-Georges, et c'est un chevalier qui est guérisseur aussi. Donc parce que ce sont des lieux de guérison. Et au-dessous, ben, ce qui est donc le mal, le dragon, on aperçoit dans les serpents, voilà.
Mosaïques qui remontent donc à quelle époque pour les définir? Parce que là, ce sont vraiment les originales, ça n'a pas été changé, ça a été restauré, mais elles sont là telles quelles.
Oui, elles ont été restaurées, démontées, refaites, mais bon, d'ailleurs, il manque le centre, hein, au niveau face à l'autel. C'est ce qui a été malheureusement détruit complètement par l'effondrement donc du chœur que j'évoquais. Le reste, ce sont les mosaïques originales qui ont été remis en place après restauration, donc qui ont une valeur, je dirais, historique, archéologique, et aussi donc qui met en lien avec cette époque-là, quoi, aussi bien avec l'esprit, la spiritualité de cette époque-là. Peut-être un peu basique, hein, entre ce bien et ce mal, mais aussi qui montre donc des époques quand même peut-être un peu difficiles. C'est pas aussi simple qu'aujourd'hui, quoi. Une petite anecdote aussi. Allez, je fais une digression, je la prends. C'est parce que je suis touché, dans le sens où moi qui suis fait libre, qui porte donc à travers ma cigale de majorale, je dirais la mémoire donc de mon devancier qui était Paul Arène. Alors, Sisteronais, donc je parle quand même à une radio qui a son siège, entre autres, à Sisteron. Donc, c'est le fait que Gana Gobi, en 1887, fait l'objet donc d'une prise de conscience donc des érudits du coin, des chrétiens, c'est sûr, du coin aussi, de la région, de Fort-Calquier, Sisteron, et qui voient ce lieu être entièrement pillé pour ces belles pierres. Et qui vont, on va dire, manifester. Et leur mode de manifestation, c'est de venir faire un grand banquet à l'intérieur des ruines du temple, et, enfin du temple, pardon, des ruines du cloître, et pour dire haut et fort que c'est pas acceptable, et deuxièmement pour y amener des mécènes potentiels, et donc un qui à l'époque est le marquis de Maligé, je crois qu'il était marquis, et qui va acheter aux paysans propriétaires donc de ce qui était devenu une bergerie, les ruines donc de Ganagobi. Et ce marquis, ce monsieur de Maligé, Malijai comme on disait, donc, eh bien, il va en faire don à la communauté donc, bénédictine de Marseille, qui va donc devenir propriétaire de ce lieu. Dans les deux années qui vont suivre, donc, les moines de Marseille, donc de Saint-Victor, donc, vont venir faire des fouilles, donc, je crois même qu'ils vont les diriger. Et c'est là qu'ils vont trouver à la fois les mosaïques et puis toute la richesse du lieu. Vont sortir ces dizaines, ces centaines de décombres nettoyés. Et puis ben, la restauration, elle va attendre les années 90, quand la communauté de Hautecombe donc, va venir s'implanter ici, et qui va donc, avec aussi le mécénat, hein, donc, reconstruire le chœur qui était complètement détruit, reconstruire les bâtiments conventuels, et même agrandir un petit peu, mais avec un goût et une précision, un savoir-faire, donc sous les mains de l'architecte M. Flavigny, là, donc, qui était l'architecte des monuments historiques, qui fait que c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire tous les bâtiments qui aujourd'hui servent pour les retraitants, et qui sont accueillis, si certains nouveaux éditeurs veulent venir faire une retraite à Ganagobi, ils vont sur le site, ils y seront à la fois bien accueillis, et puis ils vivront dans un autre temps, et peut-être un autre espace aussi, donc... Voilà. Et donc moi je suis attaché parce que c'est ce mouvement au départ donc, de prise de conscience des faits libres locaux. Alors si j'ai des gens de Fort-Calquier qui écoutent, ben, de Léon de Berluc Perussi par exemple, et Plochu qui étaient des acteurs, pour ceux de Volonne, Victor Liotto, bon, voilà, qui sont venus là et qui se sont mobilisés pour sauver ce monument et qui ont trouvé ce mécène et qui a fait que ben, il a mis un siècle pour revivre, hein, donc, mais bon, il est là devant nous, magnifique.
Michel Benedetto, vous nous avez emporté au cœur de ce voyage dans le temps, 3 siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes là à Ganagobi, le prieuré n'est pas loin. L'émission se termine. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ponctuer cette émission ?
Eh bien, oui, si on a fait 2000 ans de balayage vitesse grand V donc de l'histoire de ce lieu, c'est qu'il y a certainement... bien plus qu'avant, 3 siècles avant Jésus-Christ, c'était déjà un lieu donc, qui accueillait les hommes, protégeait les hommes, mais aussi qui les guérissait, et qu'aujourd'hui c'est toujours un lieu de guérison. Et je le dis avec d'autant plus de sincérité que si c'est un lieu pour trouver la paix donc, dans la nature, qui est pour moi, à laquelle on peut être très proche, en s'élevant un peu plus près du ciel, c'est vrai aussi, en allant, pour ceux qui sont sensibles, rentrer dans un lieu sacré comme donc, l'église du monastère et y a, s'approcher, je dirais, de la paix par la prière, et je dirais la rencontre avec soi-même, c'est aussi un lieu d'énergie très puissante, qui ont une source divine. Hein. Moi, je conçois le principe d'un créateur. Je pense que les auditeurs, ils auront compris. Mais ces lieux d'énergie, donc, moi qui ai donc, rencontré la géobiologie il y a plus de 35 ans, ben, j'ai fini par me décider à en vivre, c'est-à-dire au sens que je suis devenu thérapeute et que je travaille sur les mémoires, donc à travers l'enseignement de la radiesthésie, bien loin de ce que faisait mon père avec la recherche de l'eau, mais donc il travaille plutôt sur la recherche des informations bloquées donc, dans l'humain, toutes ces émotions qui nous ont bousculés dans notre vie, et plus, puisque donc notre corps qui est fait d'eau et qui est un magnifique lieu d'information, plus puissant que notre PC, notre ordinateur, eh bien, il a gardé aussi des informations de ce qu'ont laissé nos ancêtres, quoi, ce qu'on appelle donc les pathologies transgénérationnelles, et pour lesquelles je travaille. Donc, ce qui fait que quand je viens sur ce lieu-là, je vais rencontrer tout ça, et je vais l'avouer, quelquefois même, donc avec des amis qui vont recevoir un soin, qui peut se trouver à tous les niveaux, par la rencontre donc du sacré, par la rencontre du végétal, par la rencontre de l'énergie des pierres, et qui peut donner des points de compréhension. Et c'est vrai que moi qui travaille donc avec les outils de radiesthésie, ben, voilà, aujourd'hui je l'ai appris, hein, j'ai un apprentissage tardif, mais je l'exerce donc en tant que thérapeute. Donc un lieu de soin à tous les plans, sur le plan du corps, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit.
Nous sommes à la croisée des chemins entre cosmos et terre.
Ah, on peut le dire, sachant que c'est l'homme qui est à la croisée des chemins. Hein, donc, mais à la différence près de nos amis les arbres, avec qui on est très proches d'ailleurs, eux, ils ont des racines sacrément profondes et ils ont des boules bien, bien ouvertes sur le ciel. Il n'y a que le tronc qui est modeste, tandis que nous, on a un gros tronc avec une tête bien remplie. Les racines s'arrêtent sur une semelle en caoutchouc pour dire qu'on est un peu coupé. Et puis la tête, bon, maintenant, on a pris l'habitude de se raser, même les cheveux. Donc, du coup, on est beaucoup moins, je dirais, ouvert au cosmos que ce que peut-être peut l'être un arbre. Mais bon, après, c'est aussi une question de conscience. Aujourd'hui, on a tous les outils avec ce qu'on a comme prise de conscience, avec toutes les épreuves qu'on vit aujourd'hui depuis 2 ans. Je pense que l'homme est en train de, l'homme et la femme, hein, donc l'humain, est en train de prendre conscience que notre dimension, elle n'est pas faite pour à la fois donc, vivre dans des systèmes complètement pollués, je le dis, hein, donc, par le rayonnement électromagnétique qui couvre la planète, des millions de satellites sur notre tête, enfin bon, tout ça qui officiellement sont invisibles. Mais un jour, moi, j'entendais le discours d'un curé qui était en colère quand on a amené l'électricité à Villeneuve, où j'habitais, et qui disait « Ah, c'est l'invention du diable, vous vous rendez compte, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, et si vous le touchez, vous en mourrez. » Donc, il parlait de l'électricité. La raison, si on met les doigts dans la prise, on y reste. Ben, je veux dire, on ne met pas les doigts dans la prise de notre téléphone portable, je suis bien content d'en avoir un, mais en overdose, je peux vous assurer que mes baguettes, elles n'aiment pas ça, quoi.
Vous nous avez emporté dans le sillage de cette belle réflexion que vous nous amenez à l'occasion de cette émission.
Merci Chris.
Merci Michel, merci de cette belle aventure. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Moi, j'ai pris ma retraite il n'y a pas longtemps, sauf de thérapeute, puisque c'est mon activité de retraité. Mais de pouvoir le partager et surtout d'avoir des retours, comme souvent on en a, d'inviter les gens aussi, peut-être un jour à croiser, me dire tiens, j'ai entendu l'émission sur Fréquence Mistral, je suis monté à Ganagobi et puis j'ai trouvé du plaisir, j'ai trouvé de la joie, je me suis reposé l'âme. Donc, vous et moi, donc on aura bien bossé. Vous pour partager, moi aussi pour partager. Donc,
voilà. Michel Benedetto, majoral du Félibrige sur Fréquence Mistral. Pour plus de renseignements, contact@medecinesymbolique.com.